Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, chef d'entreprise, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule Le libéralisme stratège contre le chaos du monde, publié chez Odile Jacob. C'était vendredi. FTX, après le renoncement finalement de Binance, de racheter FTX, son concurrent, Binance étant la première plateforme de crypto-monnaie, se met sous la protection du chapitre 11, la loi sur les faillites aux États-Unis. Sa page d'accueil indique toujours depuis jeudi qu'il est actuellement incapable de traiter les retraits, c'est très clair, hein, et qu'il déconseille fortement de faire des dépôts. FTX a vécu une sorte de bank run, un rush de l'ensemble des clients, des 100 000 et quelques inscrits sur son site, voulant récupérer d'un coup d'un seul l'intégralité de leur argent, et probablement en dollars plus qu'en Bitcoin ou en Ethereum. Eh bien, patatras, ça n'est pas possible. Comment vous regardez cette histoire, Christian Saint-Etienne, tout de suite, quand on voit un acteur financier, on se dit, oulala, Lehman Brothers, 2008, risque systémique. Et moi, ma réponse, c'est de dire que le marché des cryptos n'est pas too big to fail et que s'il tombe, ce sera comme n'importe quelle bulle spéculative qui tombe.
À ce stade, effectivement, il n'y a pas de risque systémique, sauf si Binance, qui est la première plateforme mondiale d'échange de crypto, chutait également, puisque FTX était la deuxième.
Oui, mais ça resterait dans le monde des cryptos.
Ça resterait dans le monde des cryptos, mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de risque systémique. Néanmoins, vous avez des... Si vous prenez également les clients de Binance, vous avez des centaines de milliers de consommateurs et de ménages plutôt haut niveau de vie qui vont perdre des sommes considérables, donc ça aura quand même un effet sur la consommation bien durable. Mais au-delà, ce qui est très important dans cette affaire, c'est la question de la régulation de la dark finance, c'est-à-dire toute la finance de l'ombre qui n'est pas soumise aux mêmes réglementations que les banques. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec FTX? D'abord, on aurait dû avoir un signal extrêmement puissant qui conduise le régulateur à réagir. C'est que, au cours de cette année 2022, FTX a transféré son siège aux Bahamas. Bon, ça devrait normalement conduire les régulateurs à immédiatement investiguer. Le deuxième point, c'est que toutes ces plateformes n'ont pas de réglementation sur le minimum de fonds propres. Contrairement aux banques, les téléspectateurs savent pas forcément que les banques, depuis la crise de 2008, ont vu leur réglementation de fonds propres fortement augmenter. Et aujourd'hui, les banques systémiques doivent avoir des fonds propres de l'ordre de 12% par rapport aux enjeux de risque. Donc là, il n'y a aucune réglementation de fonds propres. Et par ailleurs, il n'y a pas de réglementation sur les comptes tiers. Parce que là, quel est le problème chez FTX? Alors, c'est une plateforme d'échange, donc les gens vendaient et achetaient. Mais beaucoup de particuliers laissaient leurs fonds dans la plateforme. Les plus puissants ne le faisaient pas. Donc c'est pour ça que ça réduit le risque systémique. Mais ce sont les particuliers qui le faisaient. Donc là, et je termine par là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faut mettre en place une régulation des plateformes de crypto-monnaie, mais il faut aller au-delà, il faut regarder ce qui se passe sur les fonds de dette en Europe, ainsi de suite. Mais sur les plateformes d'échange de crypto-monnaie, il y a trois réglementations à mettre en place. La première, c'est des minima de fonds propres. La deuxième, c'est des réglementations systémiques de l'évolution du bilan. Et la troisième, c'est d'exiger que lorsque les gens laissent leurs fonds sur la plateforme, ce soit co-géré avec un acteur tiers, de telle sorte qu'il ne puisse pas arriver ce qui est arrivé, ce qu'on suspecte dans FTX, c'est que la direction se soit servie des comptes de tiers à hauteur de 5 milliards de dollars pour spéculer. Donc c'est tout ces ces mécanismes qu'il faut casser en urgence absolue. Et on a besoin donc d'une réglementation au niveau du G20, mais à tout le moins au niveau de l'Union européenne pour protéger les gens qui interviennent sur les plateformes.
Bon, pour l'instant, effectivement, c'est le désert de réglementation. Tout, d'un avis général, les montants en jeu ne sont pas en mesure de provoquer un risque systémique. Après, peut-être qu'on aura la mauvaise surprise de découvrir que des établissements financiers bancarisés, des banques en fait, étaient exposés à des niveaux qu'on ne connaît pas sur ce type de, sur ce type de produit.
Alors c'est quand même une affaire où vous avez du bolange. Hein. Vous avez le fonds Temasek là, de Singapour qui est en jeu, qui avait investi dans FTX. Vous avez le japonais SoftBank,
oui, SoftBank
qui est le grand investisseur mondial.
C'est un opérateur hein, et pas une banque, contrairement à ce que son nom laisse
croire. C'est un opérateur, mais à son capital, on trouve par exemple l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, pour des montants colossaux. Donc, tout le monde s'est fait avoir. Et c'est, tout ça, c'est extrêmement malsain. C'est-à-dire que quand vous voyez y compris des acteurs semi-publics travailler dans la dark finance, c'est plus que malsain. Il faut réguler et si nécessaire, il faut cogner.
C'est très clair. Et d'ailleurs, si des inquiétudes systémiques existent aussi, enfin aujourd'hui, au-dessus du secteur financier, ça concerne principalement le secteur non traditionnel. On considère que les banques aujourd'hui sont à peu près à l'abri, justement, en réglant, en conséquence des réglementations prudentielles qui leur ont été imposées après la chute de Lehman Brothers en 2008. Pour ce qui est du secteur non bancaire, là, des inquiétudes peuvent malgré tout exister. Guillaume Poitrinal, vous vouliez nous parler du salon du Made in France, et absolument pas sous l'angle habituel qui pousse à s'intéresser au Made in France, où généralement on dit, il y a un relan d'un slogan communiste des années 70, acheter français, c'est bien d'acheter français. Et vous avez retenu quelque chose d'autre par rapport à ça.
Oui, bien sûr. Alors, il y a ce salon en ce moment à la Porte de Versailles. Ça fait partie des jeunes salons à succès. Ils attendent 100 000 visiteurs, etc. C'est intéressant. Donc, ce sont que des marques, en fait, du Made in France qui sont là et qui exposent. Et en fait, quand on regarde le Made in France, on se dit, bah, c'est bien, on fait un acte patriote quand on achète français. Et c'est formidable, on aide l'emploi en France, on va diminuer nos déficits, etc. Mais on a un deuxième acte et on doit avoir un deuxième prisme, qui est le prisme des émissions de carbone. Parce que un des gros avantages du Made in France, c'est qu'il est bas carbone par principe. C'est-à-dire que vous allez avoir des produits qui sont en circuit court, c'est-à-dire que vous avez peu de transport. Vous avez des produits qui sont fabriqués avec une énergie qui est la plus décarbonée du monde, il faut le rappeler. C'est à base de nucléaire et d'hydroélectrique pour l'essentiel, hein, pour les 4/5 de notre énergie, elle est décarbonée. Et puis ensuite, vous allez avoir une industrie qui s'appuie quand même sur la puissance agroforestière française, hein, qu'il s'agisse de Canson, qu'il s'agisse de Bonne Maman à Brive, qu'il s'agisse voilà d'autres produits de Lu dans le Nord, vous allez avoir en fait ça. Et donc en fait, quel est le principal atout du Made in France, c'est d'être bas carbone. Sauf que, en France, on vous indique énormément de choses sur ce que vous consommez, mais on vous donne pas l'empreinte carbone. Donc moi, ce que je demande ardemment et tous les jours, c'est qu'il y ait un indicateur carbone, il y a un étiquetage carbone sur les pots de confiture, sur les baskets, comme ça vous irez vous chausser en espadrilles fabriquées en Vendée, au lieu d'acheter des tongs fabriqués avec du charbon en Chine. Et à ce moment-là, vous aurez un vrai geste citoyen. Et nos amis les éco-activistes, ils devraient militer pour l'étiquetage carbone de tous les produits à égalité avec le prix. C'est-à-dire, j'ai le prix d'un côté et j'ai l'empreinte carbone du produit sur son cycle de vie, fabrication, exploitation, si c'est une voiture, et fin de vie. Aujourd'hui, je peux, voyez, dans les marques là qui sont citées, il y a cette grande marque qui est Peugeot. Eh bien, Peugeot est fabriquée, l'usine tourne avec cette énergie décarbonée. Son concurrent, Volkswagen, lui, tourne avec une énergie qui est largement issue du charbon et de la lignite, ce qui est encore pire que le charbon pour l'atmosphère. Eh bien, vous ne le savez pas. Vous savez combien va émettre la voiture à force de rouler, mais la phase de fabrication, elle vous êtes parfaitement inconnu, et c'est ça qui n'est pas normal, et c'est ça sur lequel nous devrions tous militer.
Je ne suis pas certain que tous les consommateurs soient prêts à acheter un bilan carbone plus qu'un prix.
Eh bien, détrompez-vous, ils le font, vous savez. Ils le font, il y a une marque qui se trouve être la plus grosse capitalisation de l'automobile et qui s'appelle Tesla, où les gens ont le sentiment d'acheter,
ont le sentiment d'acheter
bas carbone, écolo, et Tesla vaut 1000 milliards de dollars, à mon dernier décompte, ça doit être un petit peu moins en ce moment, la bourse s'est calmée. Mais en tout cas, c'est toujours plus que l'ensemble des capitalisations de tous les constructeurs du monde entier. Ça veut dire quoi? Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Tesla est reconnu comme pouvant offrir une valeur ajoutée environnementale et que les gens sont prêts à payer la Tesla 70 000 euros en faisant la queue. Puisque Tesla, vous avez de la queue pour acheter une Tesla, et quelque part...
C'est même pas la voiture du peuple. Hein.
Eh bien, c'est deux fois plus cher que l'équivalent dans les marques traditionnelles. Oui. C'est quoi cette différence? C'est juste l'attribution d'une valeur ajoutée environnementale.
C'est aussi la marque qui fait un peu rêver. Hein. La marque Tesla, ça fait un peu rêver, au-delà simplement de l'empreinte carbone de la voiture.
C'est peut-être un peu fini, mais effectivement, il y a 4-5 ans, ça faisait rêver. Mais...
Voilà, et c'est comme l'iPhone, on va se payer un iPhone d'une fortune, alors que franchement, il fait à peu près la même chose que
c'est un
bon Android.
C'est le marketing et c'est ce qui nous
met
le PIB.
Là, c'est autre chose.
Je rappelle à tous que le PIB est une somme de valeur ajoutée et que donc plus vous faites de valeur ajoutée, même si elle est issue strictement du marketing, et bien plus vous contribuez au PIB.
Vous savez, Guillaume, il y a quelquefois des trucs très contre-intuitifs sur le bas carbone. Si vous faites un sondage en disant aux gens, quand vous faites vos courses, si vous voyez tomate d'Espagne, est-ce que vous... Ah ben non, tomate d'Espagne, non, je prends pas. Eh ben j'ai rencontré une boîte familiale qui, depuis les années 60, cultive des fruits et des légumes au sud de l'Espagne et au nord de l'Afrique. Et en fait, il est très convaincant, le fils de famille d'ailleurs, parce que c'est de génération en génération, il explique que l'intégralité des produits qu'il cultive au sud de l'Espagne et au nord de l'Afrique sont cultivés avec des conditions météo naturelles. Et bien il dit, le bilan carbone d'une tomate qui a été faite au sud de l'Espagne est nettement inférieur, malgré les deux jours de camion pour la rapatrier en France, au bilan carbone d'une tomate qui a vécu intégralement sous serre, sous nos contrées, et qui sera vendue avec le label Made in France.
Eh bien, sachez Nicolas que nous avons trouvé, nous en calculant l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie, donc construction, exploitation, nous avons trouvé ce type d'anomalie. C'est-à-dire que de temps en temps, il vaut mieux aller chercher un matériau qui est naturel, qui pousse naturellement, etc., un tout petit peu plus loin, plutôt que d'aller à proximité.
C'est
un peu par exception. Le tout, c'est d'être scientifique. Il faut être scientifique dans cette approche du carbone. On a besoin de réduire notre empreinte carbone. Il faut arrêter d'être sur les impressions. Il faut être sur le calcul. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs pour calculer précisément l'empreinte carbone des produits et des services sur le cycle de vie.
On sait le faire aujourd'hui. On est capable aujourd'hui d'aller mettre une étiquette sur tout.
Non seulement ça, mais je vais vous dire, toutes les grosses boîtes aujourd'hui le savent pertinemment, parce que les grosses boîtes, on les a obligées à remplir à peu près 250 critères environnementaux, parmi lesquels il y en a un petit qui souvent est perdu sur la page 25, qui s'appelle l'empreinte carbone des produits. Donc toutes les grosses boîtes connaissent. Vous parlez à L'Oréal, vous parlez à une capsule Nespresso. Les grosses boîtes connaissent au milligramme de CO2 près l'empreinte carbone du produit. Et il suffit juste de le dire et de leur faire dire librement. Elles ne mentiront pas. Les boîtes du CAC 40 ne sont pas une des usines à mensonges, comme on essaye de le dire. Elles ne mentent pas parce qu'il y a la responsabilité du patron. Et puis
ça
coûte trop cher. Et puis il y a eu les problèmes des Allemands avec les moteurs, un petit peu les calculs des moteurs un peu trafiqués. Donc
ça nous a fait beaucoup de mal, cette histoire de Volkswagen Gate. Parce que si on a imposé des calendriers complètement dingos pour la bascule de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est vraiment lié à un traumatisme qui a entraîné des décisions politiques sans aucune raison industrielle. Tiens, ça m'amène à vous faire réagir à tout ça, là. Bordeaux va convertir une partie de son hypercentre en zone de faible émission. Déjà, les commerçants, les artisans commencent à râler parce qu'ils n'ont pas la possibilité de changer de voiture malgré les aides pour pouvoir continuer à pénétrer dans ces centres-villes où ils ont besoin d'aller. Là, on voit que Bruxelles a validé une nouvelle norme dès juillet 2025, une norme Euro 7 qui va à nouveau fixer des limites de milligrammes d'oxyde d'azote. Là, on va baisser la ristourne sur les carburants. C'est mercredi, elle passe de 30 centimes à 10 centimes par litre. Est-ce qu'on va pas un peu vite? Et puis on est toujours sur cette idée qu'en 2035, on ne vendra plus de moteurs thermiques en Europe. Est-ce qu'on va pas un peu vite au nom du bas carbone?
Non, mais le temps nous est compté, Nicolas. Non, vraiment, le temps nous est compté. Tous ceux qui pensent qu'on va trop vite se trompent. Il faut aller très vite, mais il faut pas se tromper.
Il faut pas se tromper.
Le problème, c'est qu'il faut pas se tromper. Et très certainement, il y avait l'espoir qu'un moteur thermique à 2 litres au 100 de consommation diesel avec un filtre aux oxydes d'azote aurait pu faire la jointure, c'est-à-dire le temps qu'on puisse équiper le pays non seulement de bornes électriques, non seulement de véhicules électriques qui, eux, avec des fabrications de batteries en Europe, parce que sinon ça n'a absolument aucun sens, voilà, avec de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire issue du nucléaire. Donc on avait une jointure, parce qu'en effet, recharger sa batterie avec de l'énergie issue de la lignite, en Allemagne, ça n'a aucun sens. Il vaut beaucoup mieux un moteur diesel en Allemagne aujourd'hui qu'un moteur électrique dont l'électricité est produite par de la lignite, c'est-à-dire le pire du charbon.
Seulement la réalité est là aujourd'hui. On est devenu maintenant dépendant du reste du monde pour nos sources d'énergie depuis qu'on est en délicatesse, on va dire, avec la Russie. On sait qu'une voiture sur deux vendue en Europe, c'est une voiture chinoise, elle est vendue 30% moins chère. J'ai une espèce d'impression, je sais pas, Christian Saint-Étienne, que sur tous ces sujets, on oublie en plus le fait qu'il faut pas trop emmerder les automobilistes. Généralement, ça se finit mal. Et on avance tête baissée avec des choix politiques qui n'obéissent pas à la raison de l'évidence, à la raison du terrain, à la raison industrielle, à la raison sociale. On voit bien que là, avec l'histoire des ZFE, on veut encore une fois laver plus blanc que blanc, mais vous avez des quantités de gens concernés qui n'ont pas les moyens de se payer la voiture.
Je pense qu'il y a deux sujets à séparer. Il y a les ZFE d'un côté et il y a l'histoire de l'automobile. Alors, sur les ZFE, au risque de vous surprendre, moi, je suis pour. Je pense qu'il faut avoir des zones à faible émission dans tous les centres-villes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait viser assez loin. Il y a à peu près 400 villes significatives en France et je ne me contenterai pas de Paris et de Lyon. Je mettrai des ZFE dans le cœur strict des 400 principales villes de France.
C'est ce qui va arriver. Hein. Avec des calendriers très proches.
Voilà. Ceci étant, je continue. Vous faites une ZFE à la française par des punitions. C'est inacceptable. En revanche, vous réfléchissez de manière stratégique et vous dites, je fais une ZFE. Mais au cœur des villes, j'ai besoin d'artisans. Donc, qu'est-ce que je fais ? Au même moment où dans ma ville de Bordeaux ou dans ma ville de Lyon, j'impose une ZFE, je mets à disposition des artisans des hôtels d'artisanat au cœur de la ville, non mais je continue, où chacun a droit à 10 mètres carrés pour y laisser son matériel, de telle façon qu'il n'a pas besoin, comme à Paris aujourd'hui, quand vous faites intervenir quelqu'un, il vient du fin fond de l'Essonne, ou il vient... Donc, pourquoi ça ? Parce qu'il ne peut pas se payer un local à Paris, donc il faut mettre à disposition des artisans, peut-être contre un loyer très faible, et on a déjà commencé à faire ça, il faut le multiplier. Si vous faire des ZFE rationnelles, il faut avoir une réflexion sur l'ensemble de l'urbanisme de la ville. Donc, et troisième élément sur la ZFE, pour les artisans, en attendant qu'ils aient à disposition au cœur des villes des ateliers à l'intérieur desquels ils peuvent travailler, on peut parfaitement imaginer que les grands centres commerciaux demain incluent des ateliers, des blocs d'ateliers qui permettraient aux artisans d'être présents au cœur des villes. Donc c'est toute une réflexion urbanistique, mais il faut évidemment pour les artisans une période de transition de 5 ans, c'est-à-dire que vous imposez des limites aux gens qui vont dans le centre-ville, mais les commerçants ont des laissez-passer. Donc ça, c'est sur le ZFE. Sur l'automobile, je suis totalement d'accord avec Guillaume, le bilan carbone absolu, total, c'est-à-dire entre la production des batteries avec de l'électricité au charbon en Chine, ramenée par des porte-conteneurs qui polluent en Europe, et puis ensuite les batteries chinoises, pour l'instant, ne sont pas conçues pour être déconstruites. Il faut passer par du broyage. Donc, il faut avoir des batteries européennes conçues dès la construction pour être déconstruites. Donc, si on doit avoir une interdiction des véhicules thermiques en 2035, on devrait dire... sous réserve qu'il y ait une capacité suffisante de production de voitures électriques à base de batteries électriques produites en Europe.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on met de la contrainte, on met des normes, on met des dates hyper proches que personne dans le reste du monde n'est prêt à s'imposer. Il y a comme si l'Europe devait montrer tous les signaux de bienveillance et d'économie verte vertueuse.
Mais elle a raison, l'Europe, de prendre de l'avance, parce que de toute façon,
est-ce
le monde de demain...
Est-ce que prendre de l'avance ou est-ce que ça s'appelle être certain de se faire doubler
non,
par les
il faut
autres
le faire, Il faut le faire évidemment avec intelligence, avec stratégie.
Mais il faut le couper avec une taxe carbone aussi.
Mais bien sûr, la taxe carbone, elle est indispensable.
C'est pas prévu,
bien sûr.
Sauf que la taxe carbone, on ne sait pas le faire. On est en train de devoir rendre payant quelque chose qui ne l'était pas et personne n'arrive à passer à l'axe sur la taxe carbone. Ce qui fait que finalement,
on le fait sur le ciment, mais il faudrait aller beaucoup plus loin.
Il faut aller beaucoup plus loin et puis il faut le faire. Puisque avec un étiquetage, vous avez au moins une base.
La réalité aujourd'hui, c'est que la transition verte, c'est l'enrichissement de l'Arabie Saoudite et de ses amis, l'enrichissement de la Chine qui est aujourd'hui dominatrice sur des quantités de produits absolument essentiels pour la voiture électrique, l'enrichissement des Américains qui sont exportateurs.
Ça, Nicolas, c'est à court terme, mais à moyen et long terme. terme, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de charbon de toute façon. Et si on extrait tout le charbon, je rappelle qu'on va extraire 9 milliards de tonnes de charbon cette année, c'est-à-dire plus d'une tonne par habitant de la planète. De tout.
On marque une pause.
Si on extrait la planète ne sera plus vivable.
Comment fonctionne comme un séminaire, je dirais que l'étiquetage des produits, il est au moins aussi important sur les produits intermédiaires que sur les produits finaux.
On marque une pause. On marque une pause. Comment faire payer les super dividendes? Et j'ai bien dit payer et pas taxer. Un compromis a été trouvé il y a quelques heures.